Jules Claresci, la fête mortuaire d'Alexandre Dumas. Mai 1872. Je suis né à Villers-Cotterêts, petite ville du département de l'Aisne, située sur la route de Paris à Laon, à 200 pas de la rue de la Noue, où mourut Desmoustiers, à 2 lieues de la Ferté-Milon où naquit Racine, et à 7 lieues de Château-Thierry où naquit La Fontaine. C'est ainsi qu'à la première page de ses mémoires, Alexandre Dumas s'est peint lui-même en 6 lignes avec sa franchise naïve et sa brave faconde. Il se place trop modestement à côté de l'auteur des lettres sur la mythologie et très orgueilleusement à côté de l'auteur de Phèdre, puis il ajoute « Je suis né le 24 juillet 1802, rue de Lourmet, dans la maison appartenant aujourd'hui à mon ami Cartier, qui voudra bien me la vendre un jour pour que j'aille mourir dans cette chambre où je suis né et que je rentre dans la nuit de l'avenir au même endroit d'où je suis sorti de la nuit du passé. » C'était le vœu secret du grand homme, demeuré toujours tel qu'il était aux heures où il dénichait les merles à Villers-Cotterêts, et ce vœu, la destinée ne lui a point permis de le réaliser. Il est mort loin de sa petite ville, et, chose cruelle, à l'heure où les fourgons et les canons prussiens faisaient retentir du fracas de leurs roues les pavés silencieux des rues de Villers-Cotterêts. Il ne lui a pas été donné de mourir où il était né. Mais hier, cette maison de la rue de Lormet, qui porte sur une plaque de marbre la date de la naissance d'Alexandre Dumas, était comme parée de couronnes d'immortelles voilées de crêpes noires. Et lorsque le cercueil de Dumas, porté à bras d'homme, a passé devant, il s'est arrêté comme si le mort eût voulu saluer sa maison natale. Villers-Cotterêts. C'est pourtant à Dumas que la petite ville doit sa célébrité et son lustre. C'est par lui qu'on a appris à l'aimer, à connaître sa forêt, ses bois pleins d'ombre, ses recoins cachés. Il l'a adoré de toutes les façons, en chasseur et en poète. Il y a couru enfant. Jeune homme, il y a rêvé. Célèbre, il y est venu promener sa gloire et rechercher ses premiers souvenirs. Qu'ils étaient riants, ces souvenirs-là, parfumés et savoureux comme des fraises agrestes. On les retrouve, ou plutôt on les respire, en feuilletant les premières pages des mémoires. On rajeunit avec Dumas le dessin. On revoit les matins de printemps, les soirs d'été, qui furent les aurores et les soleils couchants de sa jeunesse. Les belles parties de chasse, les grandes et saines échappées, et les amourettes, et les ceintures roses, les bonnets chiffonnés des filles du vieux tailleur de la place de l'église, de Joséphine et Manette Thierry, ses soupirs de 16 ans. Manette, une pomme d'api, dit-il à lui-même, et il les compare l'une ou l'autre aux fruits égrenés et flétris de ce chapelet sur lequel j'ai pelé les premières phrases de l'amour. Puis à l'écouter, on assiste bientôt à l'éclosion de son génie littéraire. On apprend comment il vit à Soissons, joué par un certain Culot, méchant acteur qui lui fit l'effet de Talma, l'Hamlet de Ducis, cet Hamlet, chef-d'œuvre ignoré pour lui, qui le transporta et lui fit dire « Eh, moi aussi, je serai auteur dramatique. » Voilà ce qu'évoquait pour nous ce nom de Villers-Cotterêts, et cette ville où nous allions pour la première fois. Tout ce qui porte un nom dans les lettres, tout ce qui tient de près ou de loin à l'art du théâtre, tout ce qui garde la reconnaissance des plaisirs éprouvés, des joies causées par le grand conteur, tous ceux qui ont aimé Alexandre Dumas, c'est-à-dire tous ceux qui l'ont connu, étaient là. Villers-Cotterêts a dû être étonné d'une telle affluence. Le conseil municipal, le maire et ses adjoints ne s'étaient pas d'ailleurs mis en frais pour assister à la cérémonie. S'ils y ont paru, c'est sans caractère officiel. ils sont abstenus. Je ne sais pourquoi, ils ont dédaigné de fêter ce mort qui illustre leur ville, et je demanderai volontiers la cause de cette ingratitude. Il n'y avait là qu'un détachement de la gendarmerie départementale. Les gendarmes ont formé la haie et présenté les armes au cercueil. En revanche, la population tout entière a fêté Dumas. Je dis fêté car la cérémonie, d'un bout à l'autre, a plutôt, comme l'a fort bien dit M. Dumas fils, ressemblé à un couronnement qu'à un deuil. On n'avait pas là un mort, mais un immortel. Les paysans de la campagne et les bourgeois de la ville étaient accourus. La foule se pressait dans l'église, aux fenêtres, aux cimetières, foulant les autres tombes moins illustres pour arriver plus près de la tombe de Dumas. J'ai bien peu vu de services funèbres aussi saisissants dans leur simplicité. Cette petite église Saint-Nicolas, toute tendue de noir, avec les lettres AD entrelacées, ce catafalque couvert de fleurs et de couronnes, autour duquel brûlaient, dans des torchères argentées, des flammes vertes courbées par le vent du printemps, entrées par les verrières, cette foule entassée dans les bas-côtés des cierges à la main, cette fanfare du pays dont les cuivres jouaient au dehors des musiques lentes et touchantes, ce tableau tout entier, primitif et sincère, était vraiment caractéristique et attendrissant. L'admiration la plus profonde et la piété la plus vive pour la gloire de Dumas, l'enfant du pays, était peinte sur ces visages de paysans. On les eut pris pour des personnages des scènes de Jules Breton, calmes et recueillis. Lorsque le cortège s'est mis en marche, tous saluaient. On a traversé la place de la mairie, longé la rue de l'Ormet, et prenant un chemin à gauche, on est arrivé au cimetière. Là, à côté de la tombe du général républicain Dumas de la Pailleterie, à côté de la tombe de sa femme, au pied des grands pins dont le vent agitait les branches, Alexandre Dumas a été enseveli. Les discours se sont succédés, tous marqués au coin de l'émotion juste et vraie. M. Duguay a salué l'auteur dramatique et M. Gonzalez a fort heureusement caractérisé l'homme de lettres, multiple inépuisable, vraie fontaine de récits, ou plutôt fleuve et fleuve de jouvence. M. Perrin, au nom de la Comédie-Française, a rendu hommage à l'auteur de Henri III, de Mademoiselle de Belle-Île, des Demoiselles de Saint-Cyr, et a annoncé que les amis de Dumas seraient conviés bientôt à une autre fête, à celle de l'inauguration du buste du grand dramaturge qu'on placera au foyer à côté de ses aînés. M. Charles Blanc, au nom du ministère de l'Instruction publique, a salué dans Dumas, le conteur honnête, écrivant, comme on y dit au temps de Molière, pour les honnêtes gens. Puis tout pâle, froid, roidi par l'émotion, et la voix un peu étranglée, M. Dumas fils a rendu à Alexandre Dumas un dernier, un filial hommage. Il a surtout voulu remercier l'assistance. En décembre 1870, a-t-il dit en substance, mon père mourait à Puy, sans bruit, loin de tous, seul, mais sans souffrance et sans cri, à l'heure où tant d'autres, seuls aussi, mouraient dans les imprécations et les larmes, sur le sol envahi par l'étranger. Dès ce moment, je voulais faire transporter sa dépouille à Villers-Cotterêts, à côté de la tombe de son père, qui avait tant de fois, lui, fait reculer les ennemis. Il a fallu attendre, et j'ai attendu, que le ciel ne fût plus sombre et que l'hiver eût passé, pour que cette cérémonie n'eût rien de funèbre, et qu'on sentît à travers cette mort une résurrection. Et le printemps semble s'être fait mon complice. Le ciel est clément et bleu, et c'est aujourd'hui comme la fête de cet homme illustre qui m'a légué le souvenir de reconnaissance de cette ville où il est né, souvenir qu'à mon tour je léguerai à mes enfants. Ces paroles, dont beaucoup n'ont saisi que le sens et que j'essaye de me rappeler, nous parvenaient par-dessus le silence respectueux de la foule et à travers le grand murmure sourd des peupliers et des pins. Le printemps, en effet, souriait à ses souriantes funérailles. Les pommiers en fleurs, les cerisiers poudrés de blanc, apparaissaient comme parés au-dessus des murs du cimetière. L'herbe était verte et saine autour des tombes. Les immenses prés piqués de fleurettes, la forêt à l'horizon, reverdie, renaissante, pleine de bourgeons ouverts et de feuilles nées hier, servaient de cadre à cette scène plus semblable à une apothéose ou à une idylle qu'à un ensevelissement. Dumas aura été Dumas jusqu'au lendemain de sa vie, et il semblait que les larmes blanches de son drap mortuaire fussent des pâquerettes. Un seul discours a détonné dans cette cérémonie, celui d'un architecte de la ville qui a montré la foule pour rendre hommage à Alexandre Dumas venant de Villers-Cotterêts et des environs. Les environs, c'est Paris. Paris est décidément condamné à devenir modeste. Ce qui m'a frappé dans cette rapide visite au pays du poète, c'est l'espèce de culte cordial qu'on garde à sa mémoire. Il n'est pas vrai que nul ne soit prophète en son pays, et Dumas est prophète dans le sien, un prophète non pas redouté, mais aimé, ce qui vaut mieux. Je me trouvais à l'hôtel du Dauphin, à côté d'un vieux cultivateur tanné par tous les soleils, vêtu de neuf, de frais rasés, à qui je demandais s'il avait connu Alexandre Dumas. « Si je l'ai connu, dit-il fièrement, oh oui, j'ai couché avec lui, oui, ajouta-t-il, j'ai été son camarade de lit. Enfant, on nous donnait la même couchette, un frère de lait, je vous dis. J'en ai joliment tué des hirondelles avec lui. Sa mère tenait un bureau de tabac à place de la mairie. C'est de là que nous partions pour aller en forêt. Un bon garçon, et restait toujours le même, quoique célèbre et quoique riche. » Les portraits de Dumas sont partout avec des autographes. Il en donnait à toute la ville. Chaque année, il revenait là, distribuant des poignées de main, retrouvant quelques vieilles paysannes qui lui disaient « Nous avons fait notre première communion ensemble. » « Si j'ai changé autant que vous, ma pauvre amie, comment faites-vous pour me reconnaître ?»« Oh, monsieur Dumas, c'est que je vous ai suivi, moi, de loin, pendant que vous grandissiez. » Et voilà bien ce qui a fait le charme à la fois poignant et souriant de cette fête mortuaire d'Alexandre Dumas. Toutes les sympathies s'étaient donné rendez-vous autour de ce cercueil. Depuis les plus vieux amis comme M. de Leven, son premier collaborateur dans son premier vaudeville, depuis M. Maquet, son alter ego, jusqu'à ses derniers admirateurs, les nouveaux venus. Il ne manquait là presque personne. Sauf d'Artagnan, peut-être, qui devait bien pourtant ce dernier hommage à son poète. Puis, cette cérémonie terminée, on est remonté en wagon, toujours parlant de Dumas, ou plutôt des Dumas, de l'intarissable, du père, ce gargantua littéraire qui nourrissait toute une génération des miettes tombées de sa table, de ce puissant évocateur du passé, de ce maître du drame et de l'invention, de cette force de la nature, comme disait Michelet, et de ce philosophe profond, cruel et vrai, à qui n'échappe aucun secret de l'âme humaine, son fils, qui semble avoir condensé le prodigieux talent de son père, et avec l'acier de l'épée du romancier d'aventure, fait comme un scalpel étincelant, aiguisé, instrument de chirurgie, par la lame, bijou d'orfèvrerie, par la ciselure. À 5 heures, le train ramenait cette foule d'élite dans ce grand Paris qui a tant vécu de la vie de Dumas, joui de ses plaisirs et pleuré de ses drames. Et il ne reste de cette journée qu'un souvenir plein de soleil, de bruissement de feuilles, d'herbes fraîches, quelque chose comme une odeur irrésistible de printemps et comme un poudroiement de gloire.